Lorsque j'ai appris que les Mooseheads de Halifax avaient embauché Jean-Jacques Daigneau à titre d'entraîneur-chef, je me suis dit, attends, je vais relire ça. Je ne me trompais pas, j'ai bien compris. Il devenait le 12e entraîneur à occuper ce poste dans l'histoire de l'organisation, une organisation que je connais très, très bien. J'ai arbitré, moi, à Halifax. Je vais vous raconter ça plus tard dans cet échange que j'ai tout de suite avec Jean-Jacques Daigneau. Salut Jean-Jacques.
Salut Ron.
Wow! Écoute, d'abord, première chose, félicitations.
Merci beaucoup.
Comment t'es-tu senti lorsque on te dit « Yes, t'es notre prochain entraîneur? »
Je pense que j'ai jamais été aussi excité. C'est toute une opportunité qui s'offre à moi présentement de prendre en charge les Mooseheads d'Halifax. Surtout avec la saison qu'ils ont connue l'an dernier, comme de raison, Halifax était les hôtes des autres de la Coupe Memorial l'an dernier. Une excellente saison, un club très compétitif avec beaucoup de vétérans. Alors, je pense que c'est un beau challenge pour moi, mais j'ai jamais été aussi excité au cours de l'été à m'emmener ici, puis connaître mes joueurs, connaître mes entraîneurs et tout ça. Là. Et que c'est une belle situation. C'est quelque chose à laquelle je pensais depuis les quelques dernières années, quand j'étais dans la Ligue américaine l'an dernier, surtout à San Antonio. Puis j'avais fait part la situation aussi avec les Blues de Saint-Louis, qui est en finale de la Coupe Stanley à ce moment-là. Alors, je vous avais parlé, avant qu'ils commencent la finale de la Coupe Stanley, je vous avais dit que j'avais l'intention de devenir entraîneur-chef, soit dans la Ligue américaine ou dans le junior. Puis, finalement, ça s'est concrétisé à la fin du mois de juin. Alors, c'est une situation fantastique pour moi.
Tu as eu la permission de Jeannie, ton épouse, qui t'a dit, toi, tu as 53 ans, on déménage encore, mon amour. Écoute, je sais que c'est pas évident, tu t'en vas à Halifax, tout ça, mais Jeannie, j'ai besoin de ça, c'est une belle opportunité, ça s'est bien passé à ce niveau-là.
Mais c'est mon plus gros support, hein, ma femme, c'est mon plus gros support. Je suis vraiment choyé de ce côté-là, je pense qu'au début, elle y croyait pas vraiment, là, parce que on a déménagé de Montréal l'an dernier pour le Texas, pour San Antonio, dans la filiale des Blues de Saint-Louis. Où on s'est quand même bien ajusté. La transition a été bonne pour la famille, pour ma jeune de 12 ans qui rentre à l'école en anglais là-bas. Mais déménager, c'est pas facile. Je pense que c'est plus facile pour les enfants puis pour la personne qui part avec son emploi, rencontre ses nouveaux adjoints, rencontre les joueurs, font une forme de relation avec un peu tout le monde. Les enfants, c'est la même chose. Ils se font des amis à l'école, ils se font des amis peut-être dans un cercle sportif comme ma jeune qui est dans la natation. Pour la femme, elle, bien, c'est dur de partir un book club, c'est dur de se faire des amis dans un quartier. Alors, je pense que c'est tout le temps la personne dans la famille qui, je sais pas si souffre, c'est le bon mot pour la situation, mais c'est l'adaptation, je pense, qui est toujours plus dure pour la femme. Je suis vraiment choyé de ce côté-là.
Jean-Jacques Daigneau est le nouvel entraîneur des Mooseheads de Halifax. J'ai tellement de points à toucher avec toi, mais d'abord, j'en reviens pas. De l'information générale, tout le monde, écoutez bien ça. Vous savez qu'il y a eu un ouragan qui a passé dans la région de Halifax, et vous savez, et vous ne saviez peut-être, vous savez peut-être qu'une grue qui a tombé. Puis lorsque Dorian a passé, on a dit, waouh, ça fait des ravages, tout ça. Puis à un moment donné, on voit ça à la télé, la grue qui tombe, tout ça. Écoutez l'histoire suivante. Raconte-nous, Jean-Jacques, ce que tu as vécu pendant quelques heures, puis par la suite aussi, puis peut-être même avant, parce que tu as anticipé de quoi, toi. Vas-y, raconte-nous.
Oui, bien, c'est ça. Nous, on a emménagé dans notre condominium le 3 septembre ici, au 18e étage d'un projet de condominium, avec une grue devant nous, qui était environ à 25-50 pieds peut-être de notre salon. Mais on ne savait pas qu'il y avait un ouragan qui s'en venait comme de raison. Puis la journée de l'ouragan à Dorian, la semaine dernière, la grue chambardait un peu d'un bord puis de l'autre. Puis c'était soit qu'elle tombe dans notre salon ou soit qu'elle tombe sur les buildings adjacents. Et finalement, je pense qu'elle est tombée environ à 4 heures de l'après-midi. J'étais dans ma chambre à coucher. Comme de raison, on était en train d'aménager ici. Alors, je plaçais des meubles, je rangeais du linge, puis je l'ai vu tomber, là, juste sur le building à côté qui est en construction. Alors, je pense que la fameuse grue a tombé au meilleur endroit qu'elle ne pouvait pas tomber. C'était soit là ou sur notre building, dans notre salon. Alors, ça a été
D'émotion.
ça a été une journée mouvementée, une journée remplie d'émotions parce que, comme de raison, notre fille de 12 ans, elle avait la grue direct devant sa chambre à coucher.
Wow.
La moitié était dans notre salon, puis on l'a regardée pendant un bon 3 heures l'après-midi parce que les bourrasques de vent étaient incroyables, au-dessus de 150 km à l'heure. Puis finalement, bien, je l'ai vu tomber devant moi là, pendant que j'étais en train de placer du linge. Alors, on est sain et sauf, malgré tout.
Wow! Toute une histoire, mon cher ami
Ouais.
Jean-Jacques, toute une histoire. Dieu merci. Dieu merci.
Ouais.
OK. Maintenant, question 1, question le fun 1, vraiment. Ils vont-tu te donner une bague? Écoute, si tu en as eu une en 93 avec le Canadien, là maintenant, est-ce qu'ils vont te remettre une bague, étant donné que tu étais dans l'organisation des Blues à San Antonio, la filiale dans la Ligue américaine. J'imagine qu'une bague s'en vient.
Oui, mais absolument, absolument. Quand j'ai quitté les Blues de Saint-Louis, après le repêchage, on a eu le camp de développement, quelques jours après le repêchage, puis la dernière journée, je pense qu'on était assis dans les astreintes avec le gérant général, Doug Armstrong, puis on s'apprêtait à quitter, puis il nous a dit aux entraîneurs de la Ligue américaine, n'oubliez pas de donner la grandeur de vos doigts, your ring size, parce que vous allez avoir, tout le monde a une Coupe Stanley, une bague de la Coupe Stanley. Tout le monde qui fait partie de l'organisation va avoir une bague. Alors, j'étais pas mal ému et surpris de savoir ça. Comme de raison, dans la Ligue américaine, on a eu des gars comme Jordan Binnington, Mackenzie McCackern, Samuel Blais. Alors, je pense qu'ils ont tous été avec nous pendant un bon 25-30 matchs avant de se joindre aux Blues et avoir du succès avec eux. Non, je suis pas mal content de savoir que je vais jouer l'été d'une deuxième bague de la Coupe Stanley. Puis espérons que les diamants vont être aussi brillants que les joueurs qui ont joué pour cette Coupe Stanley-là.
Ouais, formidable. C'est une belle histoire. Jordan Binnington. Samuel Blais, on le connaît assez bien. Jordan Binnington, je vais te dire, je vais être bien honnête avec toi. J'ai appris, moi, il y a de ça quelque temps, que Binnington était sur le marché. Doug Armstrong voulait l'échanger. L'organisation voulait l'échanger, voulait se départir de ses services, OK? Puis on l'a offert partout, puis il n'y a pas eu preneur. En année, il y a de l'organisation, il y a un dossier de 11-4, je pense, en début de saison, 16 matchs là-bas. À un moment donné, il y aura le rappel, puis on connaît l'histoire, OK?
Ouais.
C'est vrai, ça. Hein? Qu'est-ce que je te dis là? C'est vrai, ça.
Ouais, c'est une histoire vraiment fantastique pour Jordan. Jordan, c'est un jeune motivé, un peu arrogant du bon côté, là, pour un jeune athlète. Mais c'est quelqu'un qui a eu du succès pas mal à tous les niveaux. De notre côté, cette année, quand on a commencé la saison à San Antonio, Jordan Binnington était dans les buts pour 3 des 10 premiers matchs. Alors, c'était pas notre espoir numéro 1 à San Antonio. C'était plus Ousso, un Finlandais, qui était notre espoir numéro 1. Les 10 premiers matchs, on a accumulé 2 points sur un total de 20. Alors ça n'a pas vraiment fonctionné. La deuxième série de 10 matchs, Binnington a été, je pense, ils ont splitté 50-50. Ça a été un peu mieux. Puis la troisième tranche de 10 matchs, de 21 à 30 matchs, Binnington a été dans le but 7 fois. Alors c'est complètement le contraire de la première tranche. Puis 7 fois sur 10. Puis finalement, on a eu 16 points sur un total de 20. Il était bien été avec nous. À chaque fois qu'il était dans le but, surtout à des avantages numériques, moi je m'occupais des avantages numériques. J'étais vraiment capable de voir s'il contrôlait bien ses retours de lancer, s'il absorbait bien les rondelles, s'il n'avait pas de retour de lancer. Il était vraiment bon. Je pense que surtout en désavantage numérique, quand lui était dans le filet, l'avantage numérique, le désavantage était comme 90%, puis quand c'était l'autre, sans rien lui enlever, je pense que ça tombait à 70%. Mais on a vu que c'était un joueur de caractère, il a très bien été avec nous. Puis quand il était monté comme de raison, je pense qu'il n'a pas joué aussitôt, mais quand il a commencé à gagner, puis Craig Berube a commencé à le laisser dans le but, je trouve que ça a été une histoire fantastique pour non seulement pour lui, puis les Blues de Saint-Louis.
Ah, je te le dis, là, c'est l'histoire qu'on entendra pour des années et des années à venir. En tout cas, c'est encourageant pour toutes les équipes de la Ligue nationale qui aspirent à une Coupe Stanley. Si tu te tailles une place en série, tout est possible. Hein? C'est ça, tout est possible.
Oui. Mais ça me faisait penser beaucoup à Patrick Roy en 86.
Ah, OK. Quelle comparaison tu vois là?
J'ai fait un peu de parallèle. Patrick arrivait de. C'était une recrue, ça n'avait peut-être pas été aussi bien dans les séries.
Mm.
Puis finalement, ils ont mis Patrick Roy dans le but, puis les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 86.
Ouais, ouais.
Fait qu'ils ont été avec le jeune, un peu comme les Blues ont fait cette année. Mais c'est un gardien de but qui a une grande maturité, qui est stable dans son but et qui ne donne pas beaucoup de retours de lancer. Une très grande confiance en lui-même.
En conversation avec Jean-Jacques Daigneault, entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax. Si tu veux, Jean-Jacques, on va s'arrêter quelques minutes et on revient. De retour en compagnie de Jean-Jacques Daigneault, Halifax a remporté la Coupe Memorial en 2013 avec Nathan MacKinnon puis Jonathan Drouin.
Absolument, oui.
Bon.
Absolument.
Et qu'est-ce qui est bizarre aussi, puis je te fais juste un clin d'œil comme ça parce que tu es capable de le prendre. Écoute bien la farce. Le gars qui coachait à ce moment-là à Halifax, Dominique Ducharme, c'est lui qui t'a remplacé à Montréal. Puis là, toi, tu te retrouves à Halifax.
Oui.
Hein?
Ouais.
C'est assez spécial la vie. Alors là, tu te retrouves à Halifax dans une belle organisation où on a engagé pendant des années et des années des Clément Jodoin était le premier coach là, des Québécois, là, on a engagé plusieurs gars ont travaillé là-bas, Tourigny, André Tourigny, Éric Veilleux. Bon, Veilleux s'est retrouvé là, lui avec actuellement, il était coach l'année passée là-bas. Là, il est à Syracuse comme adjoint de Benoît Groulx. C'est ça qui t'a ouvert la porte, c'est ça, hein?
Mais un peu, ça a été en fin d'été. Ça s'est passé en fin d'été. Je pense qu'Éric Veilleux a quitté les Mooseheads le 26 ou le 27 juin pour se joindre au Lightning de Tampa Bay comme entraîneur adjoint dans la Ligue américaine.
Oui.
Alors, lui faisait un retour dans la Ligue américaine. C'est un peu drôle l'histoire parce que Éric Veilleux était entraîneur avec les Rampage de San Antonio l'année avant d'arriver à Halifax. Quand il est parti de San Antonio, c'est moi qui étais à San Antonio comme entraîneur adjoint.
OK.
C'est ça. Mais je pense que la ville ici, c'est une ville de hockey incroyable. C'est un gros marché. Le monde suit beaucoup leur club. Puis je pense que le monde sont fébriles avant tout les saisons. L'an passé, c'était quand même une situation différente parce que Halifax était haut de la Coupe Memorial. Alors, c'était ainsi de l'année, un peu comme j'ai expliqué à nos joueurs. Tout le monde savait où ils étaient pour être au mois de mai l'an passé. C'était à la Coupe Memorial qui était à Halifax.
Oui.
Cette année, on ne sait pas. Alors, ça a été un challenge pour nous de s'améliorer sur une base quotidienne en tant qu'individuellement et aussi en tant qu'équipe pour peut-être retourner à la Coupe Memorial. On a un club, je pense, qui va être très compétitif. On a des excellents vétérans, Benoît Olivier Groulx, Raphaël Lavoie dans les buts, Gravel, Raphaël Lavoie, excusez-moi, à l'aile gauche.
Raphaël, je m'excuse de t'interrompre. Raphaël, on avait mentionné, on disait, le Canadien, repêchez donc Raphaël Lavoie. Puis c'est finalement en deuxième ronde, 38e au total, Edmonton l'a choisi. Mais on le voulait, on le voulait. Les amateurs disaient, hey, allez le chercher, ce grand slack-là, il est capable de marquer des buts.
Mais il m'a impressionné beaucoup. J'ai vu Raphaël ici. Peut-être pendant une semaine avant qu'il se présente au camp d'entraînement des Oilers. Puis c'est un bon individu, c'est un bon jeune. J'ai eu des bonnes conversations avec. C'est un jeune qui a une bonne tête sur les épaules. J'ai fait des tests ici sur la patinoire avec tout le club. Puis Raphaël, c'est lui qui a été mon meilleur pour les tests que j'ai faits, qui étaient quand même très exigeants. Alors, c'est lui qui était le meilleur pour mes tests. C'est un bon patineur, dynamique, c'est un jeune de 6 pieds 4. Alors, je pense qu'il est voué à un bel avenir. Mais sinon, c'est un bon jeune. On a beaucoup de bons vétérans ici. À la défense,
Ben oui, t'as à la défense, Jared McIsaac, c'est de valeur parce que c'est un bon. C'est, ça, c'est une perte, là. Il est blessé à l'épaule, je pense. Il va revenir en novembre-décembre. Mais lui, c'est une perte, là, pour vous autres, là. Important.
Oui, c'est une grosse perte, mais on a beaucoup de jeunes. On a des jeunes qui vont seulement prendre de l'aplomb jusqu'à temps qu'ils viennent au jeu à la mi-novembre.
OK.
Jared s'est blessé l'an passé, joué blessé à la Coupe Memorial. Il y a une opération, comme de raison, à l'épaule qui requiert 6 mois de réhabilitation. C'est à la mi-novembre pour lui, mais on a quand même des jeunes. On a Justin Barron, qui va se mettre un haut choix de pêcheur en passant, un bon petit défenseur droitier.
Mm-hmm.
On a aussi fait un échange pour Cam Wynott, qui est à Sherbrooke. On a échangé Xavier Parent pour lui, mais c'est un jeune défenseur avec une bonne tête sur les épaules, un bon IQ. Bon hockey avec lui. On a beaucoup de jeunes prometteurs et aussi des bons vétérans à la défense.
JJ, on va se reparler durant la saison, tout au long de la saison. On a une raison de maintenant à parler de quelqu'un de l'organisation, à part Bobby Smith, là. Alors, JJ Daigneau est notre invité. JJ est le nouvel entraîneur-chef pour une première fois de sa vie, entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax. Je m'en voudrais de ne pas te parler de deux petites choses en ce qui concerne le Canadien. L'année d'avant, une année épouvantable, 71 points, tout ça, mais tu as vu deux gars. Je veux que tu m'en parles. Mété et Drouin, OK? Tu les as vus, tu les as connus. Parle-nous-en, l'auditoire est à l'écoute, on veut savoir, les deux arrivaient comme tels dans l'organisation. Comment tu les as trouvés? Puis je veux que tu insistes aussi beaucoup sur Mété, parce que c'est un défenseur, mais parle-moi des deux.
Non, mais je pense que les deux sont voués à un bel avenir là, dans la Ligue nationale. Comme de raison, Victor, quand j'étais l'entraîneur pour ma dernière saison avec le Canadien de Montréal, il était à son année recrue. Puis je suis un de ceux-là qui disait au camp d'entraînement, avec la façon que la Ligue nationale joue présentement, puis la façon que les défenseurs aussi ont évolué côté gabarit, avec des défenseurs qui patinent bien, qui bougent bien la rondelle, qui passent moins de temps dans la zone défensive. Je suis un de ceux-là qui disait, je pense que Victor a sa place ici dans la Ligue nationale. Les Canadiens l'ont gardé, puis c'est quand même une saison raisonnable, mais c'est un jeune qui voulait un bel avenir. C'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle. Comme de raison, on ne demande pas à Victor Mété d'être physique, mais s'il joue bien défensif, puis il reste sur le côté défensif dans la zone défensive, je pense que de ce côté-là, il peut avoir beaucoup de succès. Jonathan, encore là, mais Jonathan, il a eu une belle carrière junior. Il l'a montré ici quand il a gagné à la Coupe Memorial avec Nathan MacKinnon en 2013. Extrêmement talentueux. Moi, j'ai bien aimé Jonathan à Montréal, mais j'ai aimé encore plus quand en finale de la Coupe Stanley avec Tampa Bay. Je pense que quand Stamkos était blessé, c'était vraiment le joueur le plus dominant dans la finale de la Coupe Stanley contre Chicago, si je ne me trompe pas. D'après moi, c'était le joueur le plus dominant de Tampa Bay à ce moment-là. Je pense qu'il a profité d'une opportunité d'un leader du fait qu'un leader du club était blessé. Je pense que lui aussi, Jonathan, il est voué un bel avenir. Là. Puis, comme de raison, les Canadiens bâtissent un peu plus avec la jeunesse. Je ne sais pas si bâtir, c'est le mot exact à dire, mais ils ont beaucoup de jeunes. Puis je pense qu'il n'y a rien de mal à avoir beaucoup de jeunes dans un club de hockey.
On en reparle. Souvent, j'ai réalisé des entrevues avec Patrice Brisebois. Toi, tu as été dans l'organisation du Canadien. Tu sais de quoi je parle lorsque je parle de la pression médiatique, la pression locale, la pression du public, surtout lorsque tu es le meilleur joueur. Même Price vit une pression constante. Comment toi, là, avant de nous laisser, là, comment toi t'interprètes ça? Puis penses-tu que tous les joueurs sont capables de surmonter cette pression-là? C'est pas évident.
Non, ça l'est pas. C'est pas évident. Montréal, c'est un gros marché. Mais je pense que dans tout ça, moi, je l'ai tout le temps vu comme ça. Je jouais beaucoup, comme de raison, je jouais beaucoup avec de la avec beaucoup de pression, je devrais dire, à Montréal.
Oui.
Mais je dirais que 75% de cette pression-là était une pression intrinsèque. C'est une pression que l'athlète met sur lui-même. C'est pas une pression de l'extérieur. Il y a peut-être une petite partie de la pression qui vient de l'extérieur, des journalistes, peut-être du management, peut-être d'un head coach, quelque chose comme ça. Mais je pense que la plus grande pression, c'est l'athlète veut essayer de performer à son plein potentiel à tous les soirs. Puis s'il ne le fait pas, mais il est satisfait de ses performances. Je pense que c'est plus une pression intrinsèque que l'athlète met sur lui. Puis peut-être que cette pression-là est encore plus grande quand on vit dans un gros marché comme Montréal et Toronto.
Écoute bien, là, quand tu vas être face à face, Patrick Roy à l'autre bord, puis toi de ton bord, puis vous allez vous regarder. Allez-vous vous sourire, vous serrer la main avant, vous dire que vous vous aimez bien gros, puis merci beaucoup, puis ça a été le fun de la Coupe Stanley, ou bien ça va être comme Jacques Lemaire, puis Bergie?
Non, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de jouer contre les remparts. Parce que je parle à Patrick. Je l'ai rencontré l'an dernier au gala de la Ligue junior du Québec. C'est tout à le fun de renouer avec Patrick. On a eu beaucoup de succès ensemble. Ça a été mon roommate.
Ah oui, hein?
On a eu des belles années. Des beaux soupers ensemble, mais on sait tous comment Patrick est compétitif. Lui aussi va avoir un jeune club cette année. Je pense qu'il a bâti beaucoup de 16 ans, beaucoup de 17 ans. Mais les remparts ont toujours été compétitifs. Je sais qu'ils vont être bien coachés. Alors, je pense que oui, je vais lui jaser peut-être avant le match pour quelques minutes, mais quand on va pas parler de notre match, ça va être tout business.
OK, parce que oublie pas, lui, il est sans pitié. Hein? Il va gagner un match, il va tout faire pour te battre. Jean-Jacques, écoute-moi bien, là. Il y a des gens qui sont à l'écoute ce soir, pas mal de gens qui sont à l'écoute, qui sont heureux d'entendre Jean-Jacques Daigneault, parce que tu es un gars, moi, je le dis ouvertement, je te connais depuis longtemps. Et je dois dire que tu es un des gars les plus sympathiques que j'ai eu l'opportunité de côtoyer, de rencontrer. Ce qui t'arrive là actuellement, c'est que tu le mérites d'une part. On va te souhaiter le meilleur des succès. C'est certain que je vais t'en appeler.
T'es bien gentil, Ron. C'est un merci de m'avoir reçu ce soir.
T'es gentil. Bye, à la prochaine, Jean-Jacques.
Merci.
Bye bye. Bye bye.